Construire et arpenter la ville, c'est donc aussi habiter une certaine forme de contrainte. Quelle contrainte pour le chercheur, habité par son sujet et sa manière singulière d'être au monde.
Chercheur militant, chercheur expert, artiste chercheur ou chercheur tout court. Comment se présenter dès lors que l'on est jeune chercheur ? Difficile de trouver sa place parmi ces différentes postures et parmi les rapports de force que leur énonciation sous-tend. Les chroniques qui vont suivre se proposent ainsi d'examiner certaines facettes de cette identité multiple.
Parlons un peu d'image mentale et de projection. Quoi de mieux que le son d'une voix pour se prêter à l'exercice de l'imagination ? Quoi de plus résistant, de plus contagieux qu'une image mentale ? Une fois qu'elle a pris place dans l'esprit, il est presque impossible de s'en délester. Elle s'est déjà enracinée là, quelque part, comme une inception. Plantons quelques images. Imaginez une bibliothèque. L'atmosphère est sombre et poussiéreuse. Le silence ambiant et la lumière tamisée vous avaient d'abord empêché de le repérer. Est-ce l'obscurité ou le contrefort d'ouvrage derrière lequel il est voûté ? Vous pensez à un animal. C'est un doctorant. Vous vous aventurez un peu plus près. Doc a le teint gris, des valises sous les yeux et le cheveu sale de celui qui travaille avec acharnement. Vous pensez au personnage de Decaune. Le doctorant, naturellement, a des lunettes. Pas celles de la dernière marque coréenne plébiscitée par les hipsters branchés, non. Des lunettes fines et légères, fonctionnelles et pas chères. Vous pensez, ingénieur informaticien. Mais au smartphone high-tech, le doctorant préfère les liseuses compactes. Il privilégie un usage réaliste des choses. C'est un pragmatique. Il est fonctionnaliste. Il peut parfois surprendre par les associations douteuses qui composent sa toilette. Chaussettes de sport et chemisettes, gilet sans manches et col roulé. Vous pensez qu'il lui manque quelque chose pour descendre les poubelles. Deuxième image. Imaginez un sourire aux dents jaunies par le café et les clopes fumées en attendant l'inspiration. Vous pensez à Tom Waits et Jim Jarmusch. C'est un artiste. Il est cool et détendu. Sa démarche nonchalante est d'une effrayante simplicité. Il pratique le coiffé décoiffé, travaille son naturel et maîtrise l'art de la tâche qu'il arbore toujours au bon endroit. Il connaît tout de la façon dont il faut assortir les loques onéreuses. Vous pensez au garçon sauvage. Il dispose d'un éventail de transgressions raffinées servant ses révoltes imaginales. Ses chaussures sont bigarrées par la peinture et usées sur les pavés des manifestations altermondialistes.
La chaleur de la ville était étouffante à mon arrivée à Santiago, alors que je n'étais pas retournée au Chili depuis près de 2 ans. Carnet de notes en main, je m'apprêtais à effectuer mon premier séjour de recherche en plein été, dans une capitale où les activités politiques étaient en hibernation. Imaginez un chercheur essayant d'enquêter sur les députés de l'Assemblée nationale française en plein mois d'août. C'était un peu moi. Pour moi qui préparais un mémoire sur le Parti socialiste chilien et ses relations avec le mouvement étudiant qui secouait le pays depuis quelques années, les enjeux étaient multiples. Au-delà de l'absence quasi totale d'activités politiques dans les mois où je menais mon enquête, il s'agissait surtout de me constituer un réseau d'enquêtés au sein d'un milieu partisan pour lequel j'entretenais une longue admiration. Partageant l'idéalisme et les demandes des étudiants chiliens que j'observais depuis quelques temps, il m'a été plutôt aisé de réaliser de longs entretiens à leur côté. Ma connaissance de l'histoire du socialisme chilien, ainsi que ma profonde sympathie à l'égard du parti de Salvador Allende, m'ont également facilité l'accès à un terrain d'enquête a priori plutôt verrouillé. Le choix de me présenter comme une militante socialiste française participait pleinement de cette stratégie. Mais si l'histoire s'arrêtait là, cette chronique n'aurait probablement pas vu le jour.
Imaginez maintenant un croisement entre notre premier, brebis brillante mais galeuse, et notre second, gueule d'amour mais tir au flanc. Ce mutant, c'est l'artiste doctorant, funambule d'un jeu de tir à la corde. Imaginez sa liberté. Personne ne lui demande de choisir son camp. Il est relax à midi, angoissant à 15h. Il est gentil, maudit, plaintif, suffisant. Il se prend pour Baudelaire avant de se comparer à Sander. Il entend dépasser l'innocence présumée des apparences. Vaste programme. Vous pensez mort au con. N'empêche qu'il observe, étudie, scrute. Il porte son attention sur les objets les plus triviaux, les signes d'appartenance ou de contestation. Il décrypte le système a priori occulte de codes, de conventions et de règles inscrites à la surface des styles. Il vous scanne. Vous pensez qu'il sait. Il sait que plus de la moitié d'entre vous, à l'écoute de ce billet, a visualisé des caucasiens de sexe masculin, des hétérosexuels d'une 30aine d'années. C'est aussi ça son travail. Balzac disait « Il n'y a pas un seul de nos mouvements, ni une seule de nos actions qui ne soit un abîme où l'homme le plus sage ne puisse laisser sa raison, et qui ne puisse fournir au savant l'occasion de prendre sa toise et d'essayer à mesurer l'infini. Quelle posture idyllique que celle de l'artiste doctorant, utopique, me direz-vous. Mais qu'en est-il du personnage double face quand il devient double tranchant ? La liberté créatrice de l'artiste, qui moleste la morale, s'arrête-t-elle là où commence le travail du chercheur et son éthique ? Comment mêler la subjectivité personnelle et singulière à l'objectivité de l'analyse sociologique ? Faute de devoir choisir son camp, l'artiste doctorant doit choisir sa bataille et l'engagement qui est le sien. Vous pensez à Shining.
J'avais réussi le pari risqué d'accéder rapidement aux données de terrain, malgré la nonchalance estivale. Mais dès mon retour, je commençais à être tiraillée par des questionnements sur mes propres pratiques. Dans quelle mesure ma proximité idéologique, puis au fil du temps amicale avec mes enquêtés, pouvait-elle représenter des biais pour ma recherche ? En participant à diverses activités des jeunesses socialistes, étais-je en seule situation d'observation ? En m'engageant aux côtés des étudiants en faveur d'une réforme profonde du système éducatif chilien, me situais-je véritablement ou exclusivement dans des pratiques militantes ? Ma rencontre avec Victor et l'entretien que j'ai réalisé avec lui illustrent à merveille la tension constante qui m'habite entre enquête et amitié, neutralité et engagement. L'entretien formel, qui se déroulait chez moi autour d'un pack de bières fraîches, n'a guère duré et a rapidement tourné à la discussion passionnée de celles au cours desquelles on aimerait refaire le monde. Je brisais dès lors, consciente mais inquiète, les grands principes de la recherche en sciences sociales, parmi lesquels la fameuse neutralité axiologique qui commande aux chercheurs de se distancer de ses enquêtés. Je jouais avec le feu, sans pour autant perdre de vue que ces relations tissées avec de jeunes Chiliens représentaient en fait un précieux sésame pour élargir mon réseau et mes connaissances sur place. Consciente de la pente glissante sur laquelle je me trouvais, je comprenais qu'une mise à distance était indispensable à une recherche de qualité. C'est alors dans le passage à l'écriture que moi, apprenti politiste, j'ai su renouer les liens avec ma discipline et prendre le recul nécessaire à toute analyse non militante des faits politiques. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Est-ce en écrivant que l'on devient chercheur ? C'est en tout cas pour moi le moment où la socialo-gaucho s'est distancée de ses idéaux pour entrer pleinement dans son enquête.
Le chercheur a de multiples casquettes. Il en change à l'envi, selon les interactions sociales et les sphères dans lesquelles il évolue. Il est vigilant, il ne veut pas se perdre parmi ses identités multiples. Et si nous évoquions la question de l'engagement, c'est parce que ses recherches sont parfois au cœur du débat public.